On est en train, avec Loïc Tassé, de parler du bye-bye. Puis Loïc me faisait justement remarquer qu'il y avait quand même beaucoup de et là, ça rejoint ta chronique, de sujets internationaux cette année dans le bye-bye, plus que d'habitude, j'ai l'impression.
Oui, il me semble. Ouais. Il y avait, et c'était des bons sketchs. Ouais. J'ai bien apprécié celui avec Trump. Et même Justin Trudeau, on parlait de ses voyages internationaux. Donc, il me semble qu'il y a une évolution dans le regard politique que le Québec porte sur lui-même et sur la politique. Parce que le bye-bye, c'est vraiment un miroir de nous-mêmes aussi.
Voilà,
alors,
exactement.
Dans ce sens-là,
mais
c'est intéressant.
Il y avait le G7 aussi qui donnait, comment dire, le prétexte.
Absolument.
Aussi à en parler, etc.
Mais absolument. Ça... Puis la signature avec Trump, quand Trump forçait Justin Trudeau à signer. Je suis pas content, mais je vais signer. Bon, c'était sa façon de négocier et tout. Il y avait des bons sketchs.
Voilà. Bon, parlons justement de nouvelles internationales.
Ouais.
Et une année difficile qui s'annonce pour Trump. Et Mitt Romney lui a rappelé ce matin.
Ouf, que ça va faire mal. Ça va faire mal. Tu sais, écoute, la chasse est ouverte à Trump, hein, parce que on est à 2 ans des élections présidentielles, même moins que ça. Et puis Valérie Beaudoin, je sais, va te parler plus tard des candidats démocrates, mais plus que ça, les candidats démocrates sont majoritaires à la Chambre de représentants. Il y a les enquêtes sur Trump et entre autres les enquêtes de Mueller qui s'en viennent. On va avoir les conclusions de ça. Mais là, il y a des gens dans son propre parti qui commencent à le critiquer, mais pas à peu près.
Ouais.
Et le dernier en liste, c'est Mitt Romney, qui est l'ancien candidat républicain à l'investiture contre Trump. Il est sénateur de l'Utah. Il a beaucoup, beaucoup de leadership dans le parti. Et là, je te cite ce qu'il a dit. Il a dit, en parlant de Trump, que sa conduite de ces 2 dernières années, tout particulièrement ses mesures ce mois-ci, démontre que le président n'a pas encore endossé le costume de sa fonction. Et là, on parle du renvoi de James Mattis, du retrait de la Syrie, ce qui est moins passé dans les médias. Figure-toi qu'il a annulé par un tweet, il a annulé l'augmentation du salaire des fonctionnaires de l'État, 2%, tu sais, ils en avaient, ça suivait l'inflation, annulé. Et en fait, ce qu'il dit, c'est toujours le même Mitt Romney, avec un pays aussi divisé, remonté et en colère, un leadership riche de qualité de caractère est indispensable. Donc, en d'autres termes, il conteste le leadership de Trump.
En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas la stature d'un président, carrément.
Pas du tout, Trump a eu une réponse modérée, remarque là-dessus. Assez curieusement, on serait cru que... Non, il a dit, écoutez, j'espère qu'il ne va pas se transformer en un critique régulier de la présidence. Et puis, il dit, regardez plutôt les problèmes à la frontière, là, l'immigration, c'est ça dont il faut parler. Mais Romney a dit, non, moi, je vais attaquer le président, je vais l'attaquer si jamais lui-même attaque les institutions démocratiques, s'il fait des déclarations malhonnêtes, sexistes, racistes, ou des déclarations qui divisent ou qui sont contre les immigrés. Donc, autant dire que tous les jours, Mitt Romney va critiquer Donald Trump si ça continue.
Ouais.
Mais encore une fois, la chasse est ouverte et ça va être une année difficile pour Donald Trump.
Bon, en Chine maintenant, Xi Jinping qui accentue la pression sur Taïwan.
Oui, on sait qu'à Taïwan, il y a eu des élections au mois de novembre et le Parti démocratique progressiste, qui est indépendantiste, a très très mal fait. Il a reculé un peu partout dans les élections locales. Il a perdu les principales villes. On serait attendu, en fait, à ce que Xi Jinping adoucisse son discours. Pas du tout. Il a continué à dire que la force demeurait une option valide pour réunifier Taïwan à la Chine. Et donc, il dit, et surtout dans la mesure où Taïwan continue à recevoir de l'aide extérieure, c'est donc de l'aide américaine. C'est assez curieux parce que, tu sais, Taïwan se fait petit à petit intégrer dans la grande Chine. 30% du commerce extérieur de Taïwan se fait avec la Chine continentale. Tout le monde sait qu'à terme, Taïwan va être réunifié à la Chine continentale. C'est juste une question de temps. Quand est-ce que ça va arriver? Dans 10 ans? Dans 20 ans? On ne sait pas, mais ça va arriver. Sauf que quand il fait une pression comme ça, c'est très maladroit, évidemment, sur Taïwan même, enfin pour son propre parti, parce que ça monte les Taïwanais contre la Chine. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? La raison pour laquelle il fait ça, c'est que ça va mal pour Xi Jinping en ce moment en Chine. Son leadership est très contesté. L'économie va pas bien. Et donc, il faut qu'il montre qu'il est un homme fort. Il l'a fait, on l'a vu avec Madame Meng, tu te souviens, au Canada, à Vancouver. C'est cette femme qui a été arrêtée vice-présidente de Huawei. Et il est en train de le faire à nouveau, cette fois vis-à-vis Taïwan. Tout ça pour consolider son propre leadership.
Et en Chine, les écoliers ont des puces.
Oui, des puces.
Mais rassure-moi.
Des puces électroniques.
Ah bon, d'accord.
Mais en fait, c'est pas rassurant. Tu devrais être rassuré, mais c'est pas rassurant. Figure-toi que désormais, on va intégrer des puces électroniques dans tous les uniformes scolaires des écoliers. Et donc, ça va permettre de savoir quand est-ce que les enfants arrivent en classe, qui ils rencontrent dans la cour de récréation et un peu partout.
OK, parce que les puces vont se parler entre elles,
ben oui, l'heure de départ de l'école. Ouais. On va pouvoir même vérifier si leur niveau d'attention diminue en classe, s'ils quittent l'école sans permission. Il va y avoir un système d'alarme qui va se déclencher. Même chose s'ils échangent leurs uniformes. Donc, les puces vont permettre aussi de payer des fournitures scolaires, de payer la cafétéria. Bref, on est en train d'habituer les Chinois à se faire surveiller partout. Ben oui. Et les Chinois sont de plus en plus...
Ils le sont déjà, je pense. Il y a des caméras et des micros partout.
Partout. Tout le monde est surveillé. Tout le monde reçoit une cote de crédit politique chaque année, une sorte de bulletin. Et ça devient très, très pesant pour les Chinois. J'en parle à des Chinois qui disent, écoute, on évite d'aller à tel endroit ou à tel endroit parce qu'on veut pas que ça soit dans notre dossier.
Ouais.
Et ils trouvent ça très dur, très lourd. Mais effectivement, c'est des conditions carcérales. On traite pas différemment les prisonniers dans les prisons, là. Mmh. Ils sont surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Et ça, je trouve qu'on ne dénonce pas assez, qu'on n'en parle pas assez.
Et si vous pensez que les systèmes de caméras à reconnaissance faciale et tout ça, là, ça fonctionne pas, moi, vous dire une chose, en Chine, nous autres, ils ont trouvé une façon
ça
de la faire marcher.
Très, très bien. Et malheureusement, ils étendent cette technologie-là à tous leurs alliés à travers le monde. Il y a plein de pays dictatoriaux qui rêvent d'avoir ça et qui sont en train de s'équiper avec ça. Il faut que les démocraties réagissent contre ça, absolument. Ouais.
Discours inaugural de Jair Bolsonaro.
Oui, c'est ce personnage un peu inquiétant qui est devenu président du Brésil. Oui. C'était hier son grand discours inaugural. On sait qu'il est homophobe, raciste, misogyne, anti-gauche simpliste. Il est pour le port d'armes universel.
Il dit des grossièretés.
C'est incroyable. On est en train de l'appeler le Trump des tropiques.
Oui.
Il permet des écoles libres d'idéologie, mais ça veut dire des écoles qui vont avoir sa propre pensée politique à lui. Le reste, c'est de l'idéologie pour lui. Il veut tout déréglementer. Alors, on est en train de regarder ce qu'il fait. On a l'impression que c'est une caricature de Trump et on craint beaucoup, en fait, qu'il y ait un retour à la dictature militaire au Brésil. On sait que c'est un pays hyper corrompu. Il a promis de régler le problème de la corruption. Il s'est fait y dire là-dessus. Ouais. C'est très bien. Malheureusement, il arrive avec d'autres, entre guillemets, qualités qui sont peut-être moins recommandables.
Ouais.
Et donc, on a vu aussi qu'il a nommé plein de militaires comme ministre dans son cabinet. Donc, ça aussi, ça va être à surveiller cette année.
Et élection du 30 décembre en République démocratique, entre guillemets, du Congo.
Oui, tu fais bien. Mais quand même, c'est 65 millions d'habitants. C'est un immense pays d'Afrique. Et c'est un pays qui est tenu par une main de fer par le dictateur Joseph Kabila.
Ouais.
Qui a 47 ans et qui veut pas se départir du pouvoir, sauf que l'élection semble avoir été complètement frauduleuse. Il y a eu de très nombreux cas de fraude électorale qui ont été signalés. Par exemple, des observateurs internationaux ont été expulsés. Il y a beaucoup d'ONG qui ont dénoncé les irrégularités. Écoute, pire que ça, depuis lundi matin, l'Internet est coupé à travers tout le pays. Il y a des accréditations de journalistes qui sont tombées. Par exemple, la journaliste française de RFI, Florence Maurice, n'a plus le droit d'être au Congo. Depuis, RFI d'ailleurs est coupé depuis hier, Radio France Internationale est coupé au Congo. Donc, même si les résultats n'ont pas encore été annoncés, les premiers résultats doivent être annoncés le 6 janvier. En fait, Washington a dénoncé le scrutin en disant que c'était ni libre, ni démocratique.
Juste pour donner une idée, là, lors du dernier scrutin, là, Joseph Kabila avait eu quelque chose comme 97% des voix.
Oui, c'est ça.
C'était complètement fou. Puis
absolument.
Le taux de participation était plus élevé que le nombre de votes.
Oui, oui. Ça, c'est l'enthousiasme pour reprendre ce que Duplessis disait. C'est l'enthousiasme, M. le Président.
J'ai tellement aimé ça voter, je votais deux fois.
Mais oui! Alors, on regarde tout ça, puis écoute, les gens disent, non, écoutez, ça n'a pas de sens. Il y avait des machines à voter en plus, puis on sait qu'elles ont été trafiquées. Bref, on attend ce qui va se passer, on attend les résultats, mais disons que ça augure rien de bon en ce moment.
De toute
façon, l'impression que le candidat au pouvoir va rentrer, et il va y avoir encore, malheureusement, des manifestations et beaucoup de tueries au Congo.
On va en reparler demain, de toute façon, je suis convaincu.
Malheureusement, oui.